Ça en dit long sur nos histoires humaines, cette histoire de Cain et Abel. Elle est jamais finie à... On n'a jamais fini de la découvrir. Et ces textes bibliques ne sont pas des textes historiques, mais ce sont des textes qui nous parlent de la vérité, de qui nous sommes et de qui est Dieu et qui est l'autre aussi pour nous. Et en fait, les deux noms des deux fils, Cain et Abel, alors j'ai entendu la traduction que Graziella a lue, c'est une traduction qui a adouci un petit peu les choses parce qu'on dit que Ève a acquis un homme avec le Seigneur. Et c'est vraiment le mot « acquérir », posséder, rien, voilà, elle a acquis un homme avec Dieu, donc vous pouvez imaginer ce que ça peut signifier, c'est pas rien quand même d'acquérir un homme avec Dieu, avec le Seigneur. Elle est un peu dans la possession du divin quand même, cette femme, et elle s'attribue sa puissance sans laisser aucune place au Père, à Adam, qui pourtant est indispensable, non seulement pour concevoir les enfants, mais aussi pour élever les enfants. C'est quand même pas rien d'élever les enfants. Et tous les parents qui sont ici ce matin, ben je vous tire mon chapeau, parce que moi j'ai fait ce que j'ai pu avec mes enfants, et je sais que c'est pas facile. Et puis ensuite, elle enfante Abel. Alors le pauvre Abel, il n'existe que par rapport à Cain. Vous avez entendu, elle enfante son frère. Encore une possession. Et Abel, au contraire du nom de son frère, eh bien, c'est un nom qui veut dire quelque chose de futile, de vain, c'est une buée, une fumée, quelque chose d'évanescent, quelque chose qui disparaît. C'est le même mot qui est utilisé dans le livre de l'Ecclésiaste, Coëlette, quand il dit « vanité, vanité, tout est vanité, tout est appelé à disparaître ». À peine est-il né qu'Abel est appelé à disparaître. Ça, voilà, c'est programmatique dans le prénom. Alors les deux fils font une offrande à Dieu. On s'est évidemment énormément interrogé sur la préférence de Dieu pour l'offrande d'Abel, les bêtes premiers-nés et leur graisse. Alors il y a eu plein d'hypothèses évidemment qui ont rempli des livres et des livres, mais une qu'on peut un peu comprendre, c'est peut-être que Abel offre comme un sacrifice les bêtes premiers-nés et leur graisse, ça va être la base des sacrifices pour le peuple d'Israël, donc la relation à Dieu. Mais j'aime aussi beaucoup cette image de Dieu qui se penche sur finalement celui qui est appelé à disparaître. Il se penche sur Abel qui n'existe presque pas. Ce Cain qui est finalement glorifié par la mère, eh ben, n'est pas mis en avant par Dieu. Donc nous, les parents, il faut aussi qu'on en apprenne quelque chose. Attention à la manière dont on considère nos enfants. Mais je pense qu'il faut moins s'attacher sur les raisons que sur le constat que l'être humain, et je pense que ça, c'est quelle que soit notre histoire, quel que soit le pays où on vit, l'être humain vit des sentiments d'injustice toute sa vie. Et quand je disais « c'est pas juste », ma mère me disait « la justice n'est pas de ce monde ». Ah ouais, ben ça me faisait une belle jambe, mais j'étais quand même révoltée en moi parce que c'était pas juste. Et bien sûr, il y a des combats à mener, et c'est formidable que énormément de personnes mènent des combats pour que la justice soit rendue et que tous voient leurs droits respectés. Mais parfois, le sentiment d'injustice peut venir d'un malentendu, d'une incompréhension. Et du coup, eh bien, ce sentiment d'injustice, il peut y avoir plein de choses qui naissent, dont la jalousie. Donc, Cain est jaloux. Et Cain, il est irrité, il est en colère, son visage est abattu. Alors, c'est douloureux pour Cain. Mais il est dans cette émotion-là, on n'a pas à juger nos émotions. Et c'est là où Dieu vient discuter avec Cain. Et c'est intéressant parce que finalement, Dieu n'a pas discuté avec Abel, il a juste porté un regard sur l'offrande d'Abel. Donc imaginez, Cain est là, Abel est là. Je regarde l'offrande d'Abel. Cain, il se dit, ouais, il regarde que Abel, moi, j'existe pas. Et bien là, Dieu fait exister Cain aussi en venant discuter avec lui. Dieu lui propose un chemin qui est de bien faire, un chemin qui peut le révéler parce qu'il lui dit, attention, il ne le juge pas, mais il dit, attention, il y a un danger. Et en fait, c'est une parole de Dieu qui introduit la notion de faute et de péché. Le péché, c'est pas du tout dans l'histoire de l'arbre avec le fruit qu'on n'a pas le droit de prendre. C'est pas là. Le premier péché de la Bible, c'est le meurtre. Ça, faut bien s'en souvenir. Et la faute, elle est finalement comme l'image d'un animal qui est tapis à la porte, à l'entrée du cœur humain. C'est pas la colère, mais c'est la faute, c'est-à-dire le meurtre. Ça va être justement, si cet animal prend le pouvoir sur la personne, Caïn, eh bien, est saisi, il est submergé, il n'écoute pas Dieu qui lui parle, il est dans sa souffrance, il est dans son orgueil. Et quand il va, on dit, le texte dit, il va parler à son frère Abel, on ne sait pas du tout ce qu'il dit, et en fait, c'est l'acte qui parle, à la place des mots. Le meurtre parle quand on ne sait plus trouver les mots. Alors Caïn veut supprimer l'auteur de sa souffrance, il supprime celui qui l'a supplanté devant Dieu. Et ça, c'est de toutes les générations, on a entendu, voilà, l'axe du bien, l'axe du mal, il faut supprimer le mal, etc. Alors Jésus va dire, attention, vous ne pouvez pas savoir ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment mal. Alors nous rejoignons ici la question des disciples dans le deuxième texte. Qui est le plus grand ? Jésus a deviné, il a peut-être entendu en chemin ce dont ils discutaient, mais il aimerait bien que les disciples disent eux-mêmes, de quoi vous parliez ? Les disciples, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ne disent rien, ils sont silencieux. Évidemment, ils se doutent bien que leurs préoccupations ne sont pas tellement en accord avec l'enseignement que Jésus leur porte depuis un certain temps. Je me suis dit finalement, même les disciples n'échappent pas à cette concurrence de savoir qui est le mieux, qui va être le plus intéressant, qui va réussir, etc., etc. Peut-être que les disciples, ils voulaient être le plus aimé de Jésus. On ne sait pas. Peut-être que Pierre, dont on voit qu'il prend un peu de place, peut-être qu'il y en a qui étaient jaloux de lui. On ne sait pas. En tout cas, Jésus entend ce silence. Il ne dit rien non plus. Et c'est ça que j'aime bien dans l'Évangile, c'est que Jésus, il parle souvent par des actes, pas toujours par des paroles. Donc, lui, il s'assoit. On peut imaginer les disciples, 12 bons hommes, quand même, 12 hommes, hein. On aurait pu mimer la scène. Et Jésus, il s'assoit au milieu. Donc forcément, hop, le regard, il baisse. Peut-être que les disciples se sont assis avec Jésus, mais en tout cas, la posture de l'enseignant, c'est d'être debout. Jésus s'assoit. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Alors il prend un enfant avec lui et l'embrasse. Donc les yeux de ses disciples qui se disputaient se portent sur l'enfant, sur Jésus. Devant un enfant, on est désarmé. On va peut-être arrêter de se disputer. Toutes les luttes pour arriver en premier sont inutiles puisqu'on a un enfant devant nous. L'orgueil se dégonfle. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là m'accueille moi-même. Jésus regarde l'enfant de façon bienveillante, il fait exister celui qui, à l'époque, n'avait aucune existence, comme Dieu avec Abel. Et Jésus, en se mettant au niveau de l'enfant, eh ben, va élever l'enfant à lui, va l'élever à son importance à lui. Et du coup, j'aime bien cette image de l'enfant parce qu'on pourrait voir, finalement, tous ceux qui ne sont pas reconnus, qui ne se sentent pas reconnus dans leur existence. Là, Jésus se met à leur niveau. Et peut-être que c'est un but de la venue de Jésus de faire exister tous ceux qui se disent « je n'existe pour personne » ou « je suis vraiment le plus nul de tous ». Peut-être que Jésus est venu pour appeler chacune de nos vies à la lumière. Oui, beaucoup de personnes sont invisibles et méprisées dans nos sociétés humaines. Beaucoup sont lâchés dans cette course à vouloir être le plus grand, à être le premier. Et même si notre part d'humanité est justement pour contrer la loi du plus fort, ben, on ne peut pas éviter les dérives et les injustices. Alors le regard de Jésus nous appelle à faire confiance, comme lui, un appel à lui faire confiance, à nous faire confiance aussi. Parce que la confiance en soi, eh bien, c'est comme une conquête sur tous les dénigrements que nous avons pu subir ou que nous subissons dans nos vies, que ce soit par des chefs, des collègues, des professeurs, des personnes que nous côtoyons quotidiennement. Tenir bon, et se savoir aimé de Dieu. C'est l'essentiel. Alors, le regard de Jésus n'empêchera pas les hommes de venir le prendre et le tuer. Il ne répondra pas à la violence. Il ne veut pas répondre à la violence par la violence. Il ne veut pas répondre à la force qui veut être la plus forte. Il laisse Dieu faire et après sa mort, il le laisse le ressusciter, le susciter à nouveau, le ressusciter, le remettre debout. Alors, peut-être que vous avez entendu dans le texte de la Genèse, Dieu va mettre un signe sur Caïn pour qu'il ne soit jamais vengé. Dieu arrête dès le début de la Bible le cycle infernal de la vengeance. Jésus, lui, il a été jusqu'à la mort parce qu'il a voulu faire confiance à Dieu jusqu'à la mort. Et alors Dieu a dépassé notre limite humaine qu'on croit toujours irrémédiable, mais Dieu la dépasse pour rendre à Jésus une vie nouvelle et éternelle qu'il nous promet à tous. Et là aussi, le cycle infernal de la violence s'arrête, n'a plus de raison d'être. C'est une proposition qu'il nous fait, il nous en donne les outils. Et parfois, il faut beaucoup de volonté pour se dire, ben non, je baisse les armes, je me protège si jamais je suis attaquée, évidemment. Il faut se protéger, c'est indispensable. Mais il y a des outils difficiles, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme le pardon, ou simplement se retirer. Et c'est ainsi que Jésus peut nous donner l'Esprit Saint pour aimer ce prochain que nous n'aimons pas forcément. C'est cela aussi, s'accueillir les uns les autres. Jésus, il a choisi un enfant au hasard, hein. C'était peut-être la pire peste qui existait. C'est pas parce qu'on est un enfant qu'on est forcément parfait, enfin, au contraire. Ayant été éducatrice de jeunes enfants, j'ai vu des petits bouts de choux de 1 an et demi se mordre les uns les autres. Donc il ne faut pas non plus avoir des illusions sur ce qu'est l'enfant. Mais l'enfant est plus petit et a moins d'existence. Du coup, voilà. Je nous souhaite, dans cette journée de rentrée, bien que ce soit une journée placée sous le signe de l'accueil des uns et des autres, que les plus anciens, qui sont des habitués, puissent accueillir les personnes nouvelles qu'ils ne connaissent pas. Et même si ce sont des personnes qui ne sont pas tout à fait nouvelles, ce n'est pas grave. On peut toujours s'accueillir les uns les autres. Et les personnes nouvelles peuvent venir se présenter pour dire, voilà, qui vous êtes. Et puis, on est heureux, nous, de vous accueillir. Alors oui, soyons les serviteurs les uns des autres. En Jésus-Christ, accueillons-nous les uns les autres. Amen.